Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais m'exprimer en français. Seul Faisal devra donc bénéficier de la transcription en anglais. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui dans sa langue anglaise ce matin. Donc, il a l'opportunité d'intervenir tout à l'heure en anglais. Alors, je me présente Naïma Yahi, historienne, ravie d'animer ce temps d'échange autour d'un sujet assez centrale, celle d'exposer le racisme anti-musulman. Donc, le racisme anti-musulman, déjà en tant que tel, nous interpelle, charrie un certain nombre de problématiques dans sa dénomination. Et quoi dire quand il s'agira de l'exposer dans des espaces muséals, dans des galeries d'art ou de manière numérique, quelle que soit la mise en espace de cette problématique du racisme anti-musulman, il nous a semblé pertinent, avec les organisateurs de cette journée de colloque, de croiser les regards et les savoirs et les pratiques avec ce panel cet après-midi qui va réunir tout d'abord ma collègue et amie, l'historienne Karima Diresh, directrice de recherche au CNRS à l'Université d'Aix-Marseille. Au laboratoire, si je ne m'abuse, Karima, tu me corriges, la maison de la MMSH, qui va, lors de ce temps d'échange, éclaircir et historiciser la notion de racisme anti-musulman pour nous donner les outils, notamment conceptuels et historiques, pour embrasser les contours de ce mal, de cette problématique qui va nourrir un travail d'exposition et de mise en espace, de mise en récit. À ses côtés, la directrice artistique de l'Institut des cultures d'islam à Paris, Bérénice Saliou, que je salue également, qui a bien voulu participer à nos échanges et éclairer en creux son travail de programmatrice et de directrice artistique au sein d'une institution parisienne qui est unique en Europe et qui fait dialoguer, entre autres, un travail de monstration de l'art contemporain, et elle l'expliquera elle-même, des cultures d'islam, et elle explicitera cette notion des cultures d'islam également dans son propos. Et enfin, notre ami de Birmingham, l'artiste plasticien Faisal Hussein, qui a pris soin de préparer son propos en amont avec le site internet de ses travaux, qui a été traduit en français pour celles et ceux qui voudraient découvrir son œuvre. Il aura loisir de nous éclairer en tant qu'artiste sur ces enjeux depuis la Grande-Bretagne pour mettre en perspective la question universelle de l'art, mais aussi la situer dans son microcosme britannique pour comprendre en cela quelles sont les spécificités de ces dialogues artistiques autour de la monstration du racisme anti-musulman du point de vue britannique et en perspective avec, par exemple, la France et notamment le travail de l'Institut des cultures d'islam. Sans plus attendre, je laisse la parole dans un premier temps à Karima Diresh, que j'invite à nous introduire la problématique du point de vue de la notion même de racisme anti-musulman dans sa complexité historique et donc nous donner un éclairage sur le temps long. À toi, chère Karima.
Merci beaucoup, Narima. Merci à Mathias Dreyfus et au Musée de la Porte Dorée de me donner l'opportunité justement à la fois d'assister donc à d'écouter toutes ces contributions et peut-être aussi d'apporter un tout petit peu ma pierre justement à toute la problématique est développée donc au cours de ces 2 jours. J'interviens dans une table ronde consacrée au racisme anti-musulman. Je ne sais pas si c'est le racisme anti-musulman que je vais évoquer. Je vais peut-être plus évoquer en fait la façon dont la catégorie musulmane s'est construite. Et si je suis ici parmi vous, c'est que je participe aussi. Donc je suis co-commissaire d'exposition donc avec Mathias Dreyfus et donc Benjamin Stora d'une exposition consacrée justement aux juifs musulmans, aux relations entre juifs musulmans et l'État français. Et c'est une exposition sur une histoire en fait judéo-musulmane qui n'existe plus ou si peu et qui met en scène ces relations donc entre juifs musulmans et la France. Et cette vie commune entre juifs et musulmans qui a existé sur près de 14 siècles a été bouleversée notamment par la colonisation française et par la façon dont l'État français s'est comporté avec les communautés religieuses des territoires qu'elle a dominés. Et comme vous le savez, elle ne s'est pas comportée tout à fait de la même façon selon qu'elle était en Algérie ou dans les protectorats voisins, Maroc ou Algérie. Et la colonisation et le droit colonial a joué un rôle fondamental dans la construction de la catégorie du musulman. Je pense que c'est ça qui est intéressant, qui permet en fait de comprendre comment cette histoire coloniale, les effets de ce droit et des représentations qu'il a charriées, eh bien, a un impact encore très, très, très actuel sur le musulman ou sur l'islam, en tout cas, tel que les débats sont menés en France depuis quelque temps. Donc moi, ce que je voudrais vous proposer assez rapidement, je ne vais pas être très très long, que c'est le poids historique que charrie le terme musulman en France. C'est un terme qui s'est construit, donc, comme je disais, voilà, sur la longue durée, en tout cas sur ce temps colonial, et il s'est construit aussi sur des impensés socio-historiques qui, entre ce temps colonial et ces impensés socio-historiques, qui sont au cœur du processus d'ethnicisation, de racisation et de confessionnalisation tel qu'il est à l'œuvre aujourd'hui. En France, il y a plusieurs millions de musulmans, dont une grande majorité française. C'est la deuxième religion de France. Et on peut se poser la question, ben, que veut dire être musulman? Est-ce une affiliation à la religion, à une culture, à une origine, à une histoire spécifique? Et qu'est-ce qu'on mobilise comme représentation quand on utilise le terme musulman? Parce que comme on peut l'entendre très bien, être musulman tel que c'est employé en France, c'est pas tout à fait être musulman tel que c'est employé dans les textes religieux ou dans la pratique culturelle associée aux religieux. Alors, pour moi, je me suis inspirée d'un travail que j'avais trouvé très intéressant. C'est une thèse qui a été soutenue en 2016 par Marie-Claire Willems et qui une thèse qui a été consacrée à la socio-sémantique historique et enjeux contemporains des usages du terme musulman. Et dans cette thèse, Marie-Claire Willems, elle propose un voyage socio-sémantique au cœur du terme musulman, où elle interroge les types de catégorisation construits historiquement avec les évolutions de sens et les évolutions de représentation. Donc, on a quelque peu une idée quand même. Donc, il y a un parcours socio-historique de la catégorie musulman qui renvoie en fait aujourd'hui à un usage courant, puisque qui renvoie à l'usage courant, à une origine, à une relation et aussi à des traits phénotypiques. Des traits phénotypes en relation avec l'islam. Enfin, pour le dire autrement, arabe et musulman, ça va de soi. C'est tellement plus simple. Et dans l'histoire française, il y a des usages multiples et ambivalents du mot musulman. Jusqu'au XVIe siècle, les auteurs, en fait, utilisaient les termes arabe, turc, maure, sarrasin, pour désigner les musulmans. Et ce sont en fait des présupposés, dans cette désignation, ce sont des présupposés ethnico-raciaux. Et pour désigner la loi, pour désigner l'islam, on parlait de loi de Mahomet ou la loi des Sarrasins. Et c'est à partir du XVIe siècle qu'en fait c'est le terme mahométan qui va dominer sur le musulman. Un terme qui dérive donc de Mahomet, Mohammed, le prophète de l'islam. En fait, selon le même procédé pour chrétien construit à partir de Christ. C'est-à-dire que le terme mahométan va devenir plus compréhensible puisqu'il vient valider les représentations chrétiennes de la religion. Et c'est bien entendu à la période coloniale, comme je le disais tout à l'heure, le droit colonial qui va donner au terme musulman donc un sens nouveau, notamment dans le cas de la colonisation de l'Algérie, qui, comme vous le savez, est un cas d'école singulier dans l'Empire français et qui a été un laboratoire d'expériences diverses et variées, et dont certaines ont été exportées très généreusement dans l'ensemble de l'Empire français, je pense notamment au code de l'indigénat, d'autres beaucoup moins. Il y a eu des choses qui ont été expérimentées, mais qu'on n'a pas voulu du tout ajuster et diffuser dans les protectorats voisins ou dans d'autres colonies. Ou dans d'autres colonies françaises. Et en fait, la France, quand elle arrive au Maghreb, en tout cas quand elle arrive en Algérie, si je dois prendre ce cas d'école algérien, parce qu'après il va avoir un impact en fait sur cette question de la définition du musulman, la France, en fait le système juridique colonial clive deux groupes opposés, qui est le groupe musulman et juif, face au groupe français et européen. Le groupe musulman et juif se base sur un référent religieux, alors que le groupe français et européen se base sur un référent national et territorial. Après le décret Crémieux, parce que le décret Crémieux qui a été appliqué aux 30 000 juifs algériens en 1870, le terme musulman, donc on accorde la citoyenneté française donc aux juifs d'Algérie, avec donc toute l'implication que cela suppose, puisque le corps indigène tel qu'il était constitué à l'arrivée de la France va se retrouver amputé de sa partie donc juive. Après ce décret Crémieux, le terme musulman va figer les catégories du droit avec une signification ethnico-raciale et juridique qui est fondée sur le statut personnel musulman. Pour le dire vite, donc le musulman, c'est l'indigène, c'est l'arabe et surtout c'est le sous-citoyen puisqu'il ne participe pas effectivement à un dispositif juridique qui repose sur l'égalité des droits. Et puis à cette période-là, finalement, dire musulman, c'est pour éviter aussi de dire algérien, parce que le terme algérien n'a pas la même connotation. L'état-nation d'Algérie n'existe pas et l'Algérie, elle est française. Et la France est un État-nation extrêmement puissant. Et avec l'Algérie, la France devient également une grande puissance musulmane. Et d'ailleurs, en Algérie, elle mène une politique musulmane extrêmement active, bien évidemment destinée donc aux indigènes, aux Arabes. Et on a cet usage du terme musulman qui est un usage qui est très très fort, donc cet usage par l'État français qui est très fort, puisque pendant la Première Guerre mondiale, quand on parlait notamment des soldats d'Afrique du Nord, on parlait des soldats musulmans. Et le terme est tellement fort, l'usage de ce terme est tellement fort, qu'il se renforce même par les personnes désignées comme musulmanes qui elles-mêmes aussi s'auto-désignent comme musulmanes. On a toute une série d'exemples, je pense à l'association des étudiants musulmans nord-africains, enfin bon, là on peut tirer le fil et on a toute une série d'exemples comme ça. Donc on voit bien que dans cette histoire, excusez-moi, je vais très très rapidement parce que je ne veux pas non plus prendre trop le temps, mais que l'on parte des Français musulmans algériens, les FMA, aux Français musulmans d'Algérie, aux Français musulmans aujourd'hui, ou aux musulmans tout court, comme on le dit aujourd'hui en France, en fait, on voit bien que tout concourt dans l'histoire pour que la catégorie musulman continue à désigner les descendants des territoires coloniaux, car le qualificatif continue en permanence à rappeler cette histoire coloniale. Et on le voit bien aussi en situation post-coloniale, comment les groupes migrants issus des ex-colonies sont marqués donc aussi par cette spécificité-là, musulmane. D'ailleurs, il y a un moment donné, on appelait les migrations les nouvelles main-d'œuvre musulmanes. On trouve cette formulation. D'autres mots apparaissent aussi, d'autres mots apparaissent dans le champ lexical, comme celui d'immigré. Sauf que le mot d'immigré ne désigne pas les mêmes groupes que le terme étranger. Je donne un exemple. Dans les années 60, 70, 80, le terme immigré désigne plutôt les Maghrébins et les musulmans, donc en règle au sens large, alors que le terme étranger peut désigner très bien les populations migrantes aussi, mais d'origine italienne, portugaise ou espagnole. Et je le pense, mais je ne suis pas la seule à le penser, que c'est sans doute à ce moment-là qu'on assiste donc à l'ethnicisation et à la racisation des musulmans de France. Et d'ailleurs, parallèlement à immigrer ou à étranger, On a l'expression aussi de seconde ou troisième génération de l'immigration pour désigner là uniquement les Algériens, les Tunisiens et les Marocains. On ne dit jamais la deuxième ou troisième génération, donc des Italiens ou des Portugais, ou en tout cas on le dit très, très peu, très, très rarement. Donc ce terme musulman, finalement, il s'arrime définitivement aux ascendances migrantes d'Afrique du Nord et à la figure de l'immigré, du maghrébin et de l'arabe. Et c'est en ce sens que ce terme musulman est chargé du poids écrasant d'histoire et conditionne le fait, par exemple, que l'institutionnalisation de l'islam, je rappelle, deuxième religion de France par l'État français, va être marquée par l'affiliation aux anciens territoires coloniaux et aux ingérences des États maghrébins devenus indépendants avec une très grande bienveillance donc, de cette ingérence, alors que cette institutionnalisation est censée franciser, citoyenniser, si je peux me permettre, donc l'islam ou la figure du musulman, ou du moins lui accorder sa juste place dans le paysage religieux français. Et on connaît la suite, bien évidemment, avec l'hyperpolitisation du terme musulman dans l'espace médiatique et politique français. Les termes comme islamisme, comme communautarisme qui sont accolés aux questions d'intégration, aux questions des signes religieux de l'école, les termes comme radicalisation, comme terrorisme, et je ne parlerai pas d'islamo-gauchisme, mais qui participent aussi, si vous voulez, à ces confusions de registres et à cette façon de globaliser en fait une représentation et qui empêchent le musulman de prendre sa juste place puisqu'il reste sinon l'intrus, l'éternel étranger et l'éternel étranger menaçant de surcroît. Au point qu'aujourd'hui, je terminerai là-dessus, auprès de certains musulmans de France, il y a un renversement du stigmate, je dirais, pour faire du musulman une condition racisée, dominée et qui légitime un engagement plus global, en fait, où noir et arabe ferait front commun. Donc, les débats sont violents, les controverses extrêmement polémiques, les confusions en tout genre, comme je le disais, qui font, à mon avis, que les imaginaires ne sont pas décolonisés et que le colonial reste très présent, notamment dans les assignations identitaires actuelles autour du religieux et bien évidemment du terme musulman. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue, Narima.
Donc merci Karima pour avoir donné de l'ampleur historique à la désignation même des publics visés par ce racisme qui vont faire l'objet de représentations et donc d'expositions. Et nous allons, sans rentrer dans la polysémie du terme exposé, nous concentrer plutôt sur des expositions d'ordre muséal et notamment dans le champ artistique ou historique. Peut-être Karima, dans les débats, nous reviendrons sur ta collaboration avec Mathias Dreyfus et Benjamin Stora pour cette exposition. Dans un second temps, donc, nous allons donner la parole à Bérénice Saliou, donc, directrice artistique de l'Institut des cultures d'islam, pour laquelle j'ai demandé à Bérénice déjà de nous expliquer qu'est-ce qu'était cet Institut des cultures d'islam pour ceux qui ne le connaîtraient pas à grands traits et de comprendre comment elle remplissait sa mission dans ce cadre-là et comment en creux elle pourrait effectivement éclairer l'enjeu de notre échange de cet après-midi. Chère Bérénice, c'est à toi.
Merci beaucoup Naïma, bonjour à tous. Merci aux organisateurs également. Très bien, donc l'Institut des cultures d'islam est un établissement artistique et culturel de la ville de Paris. Et nous sommes situés dans le 18e arrondissement de Paris, comme son nom l'indique, et nous sommes sur deux bâtiments. Un bâtiment qui est donc ici, rue, qui s'appelle l'Institut des cultures d'islam de la rue Stephenson, que vous voyez ici, et celui de la rue Léon, qui a un patio à ciel ouvert avec cette image qui nous peut-être évoque un petit peu de nostalgie d'un temps révolu et qu'on appelle de nos voeux et qui reviendra peut-être bientôt, celui où nous organisions donc des concerts et toutes sortes d'événements dans le patio de l'Institut. L'Institut des cultures d'islam, c'est un lieu assez unique, en effet, comme tu le mentionnais, Naïma, assez unique dans le paysage français, voire même en Europe, qui a pour mission de montrer les cultures d'islam dans leur diversité, Et je pense que s'il y a bien un mot qui nous reflète, c'est bien celui-ci, c'est la question des diversités, qui a pour enjeu de faire tomber les préjugés, de créer un espace de dialogue, selon un angle inédit, qui est décalé, et qui nous fait sortir aussi un petit peu des représentations qui sont souvent associées aux cultures d'islam, à savoir un art qui serait l'art d'un temps révolu, d'un temps ancien, celui peut-être des éliges, celui du département en fait qu'on voit par exemple au département des arts de l'islam et donc au musée du Louvre, et qui est donc une approche beaucoup plus patrimoniale que la nôtre. Nous sommes résolument ancrés dans une approche tout à fait contemporaine et nous développons 2 expositions par an d'art contemporain, ainsi que des conférences, des spectacles vivants, de nombreuses activités pour le jeune public. Donc, on est vraiment complètement dans cette question de l'art d'aujourd'hui, de l'art actuel. La configuration unique de l'Institut des cultures d'islam, outre le fait déjà de s'appeler l'Institut des cultures d'islam, c'est effectivement cette imbrication entre un espace culturel qui est celui de nos bâtiments, hein, donc le patio de l'Institut, les espaces d'exposition, d'accueil, de médiation, etc. Nous avons aussi un hammam au sous-sol dans lequel on organise parfois des expositions, mais surtout il y a aussi une salle de prière qui est située au premier étage d'un de nos 2 bâtiments. Et c'est un montage unique puisque c'est donc une cohabitation du culte d'une part et de la culture d'autre part, avec évidemment donc un montage administratif qui le permet, à savoir que la salle de prière appartient et est gérée par la Grande Mosquée de Paris, donc une association d'ordre cultuel, et que l'Institut est une association d'ordre culturel et que donc nous cohabitons dans nos espaces. À l'origine, c'était une volonté vraiment de créer un lieu unique, innovant. C'était une idée de Bertrand Delanoë qu'il avait à l'époque, puisque nous avons ouvert le centre de préfiguration en 2007, de faire se croiser des publics qui d'ordinaire auraient peu d'occasion de se rencontrer, les fidèles d'une part et des personnes, des aficionados d'art contemporain qui viennent voir une conférence, qui viennent assister à un film ou à un spectacle. Donc il y avait cette envie d'une part, la volonté également de contribuer à la résorption des prières de rue qui avaient lieu dans le 18e arrondissement et dans les rues de la Goutte d'Or où nous sommes situés, et puis de doter Paris d'un lieu, d'un équipement qui dépasse les approches existantes. J'ai parlé du musée du Louvre et du département des arts de l'islam, mais il y a également évidemment l'Institut du monde arabe, avec là aussi une approche plus patrimoniale, mais surtout centrée sur le monde arabe. Or, les cultures d'islam, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Karima, dépassent largement, et on va le voir, le monde arabe. Et puis aussi, donc, le Musée national de l'histoire de l'immigration, le Palais de la Porte Dorée, qui a une approche, mais là, je peux laisser plutôt la parole aux organisateurs, mais qui a une approche qui est effectivement différente de la nôtre. L'idée, c'était vraiment de surprendre avec une approche tout à fait différente. Juste très rapidement, puisque c'est ce dont il s'agit, c'est effectivement pour nous une volonté de montrer cette diversité des cultures d'islam à travers le monde, puisque effectivement, quand on parle de culture d'islam, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est ce pluriel finalement, c'est ce S qui nous permet d'affirmer que l'islam, tel que nous l'entendons, c'est évidemment tout sauf un bloc monolithique, tout sauf une approche enfermante. Et nous travaillons au quotidien pour montrer justement que les cultures qui découlent de l'islam proviennent du monde entier, comme on peut le voir sur ce planisphère. Et c'est vraiment ce que nous nous attachons à faire, à savoir à aller mettre à l'honneur des scènes artistiques qui proviennent de pays où l'islam est présent. Alors, évidemment, savoir si les artistes que nous exposons sont musulmans ou pas, ça ne nous intéresse évidemment pas du tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'ils s'en réclament ou qu'ils les critiquent, comment ils s'inspirent de cette question des cultures d'islam. Et évidemment, qu'ils viennent, par exemple, d'Indonésie ou du Soudan ou d'Arabie Saoudite, par exemple, les œuvres qu'ils vont créer vont forcément être différentes, puisqu'ils vont témoigner d'une culture différente, d'une géographie, d'une langue, de pratiques religieuses ou d'absence de pratiques religieuses parfois aussi, qui sont évidemment différentes, puisque l'islam est une croyance, une religion qui évolue. On parle d'humain, on parle d'une matière mouvante, et c'est évidemment différent si l'islam est arrivé pacifiquement dans une zone géographique ou si ça s'est installé de manière plus violente, si effectivement l'islam s'est installé en réaction à des phénomènes comme celui de la colonisation, par exemple. Et donc, évidemment, les artistes ne vont pas se saisir de la même manière de ces questions-là. Donc, pour parler de façon plus concrète, voici quelques images. Donc, comme je vous le disais, nous organisons deux expositions d'art contemporain par an. Vous avez ici une image d'une œuvre que nous allons produire, parce que nous avons une politique de soutien à la production, pour l'exposition qui va ouvrir en septembre, l'exposition d'un artiste iranien, Hossein Valamanesh. Et donc là, ça va être effectivement une œuvre qui reprend à partir d'une sorte de jupe en tissu en soie qui est fixée à un moteur rotatif. On va par exemple reprendre la question du mouvement giratoire qui évidemment fait allusion au derviche tourneur. Ici, une œuvre que vous pouvez voir en ce moment en nos murs, enfin bientôt, très bientôt, parce que nous réouvrons le 19 mai, une œuvre qui s'intitule Ouvenke de l'artiste Salifou Lindou, qui est un artiste d'origine camerounaise, qui interroge ici la question de la purification, la question des ablutions, et notamment dans les pays du Sahel. Je fais très vite, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est aussi une œuvre qui a une dimension musicale, avec des musiques, des mélodies qui viennent de pays musulmans d'Afrique. Une autre œuvre qui interroge la question de la psalmodie, du dhikr soufi, en particulier en Afrique du Sud, puisque cet artiste James Webb est sud-africain, une œuvre sur laquelle, qui est dans le hammam de l'Institut, j'en parlais, vous pouvez vous déchausser, vous installer sur les tapis et sont diffusés des dhikr qui sont psalmodiés, et c'est extrêmement fort, ça donne vraiment les frissons, on est embarqué dans cette dimension sonore. Un magnifique polyptyque de Meymouna Guérizi que l'on pouvait voir dans l'exposition Croyance, faire et défaire l'invisible, qui interrogeait la question justement des croyances dans le continent sur le continent africain. Ici, une œuvre très belle, une photographie avec cette jeune femme qui lévite en haut de ce minbar, cette structure creusée qui représente un minbar et qui pose aussi la question de la présence des femmes dans le culte religieux et en particulier musulman. Donc, voilà. Enfin, je voulais m'attarder un petit peu vraiment sur cette œuvre et sur deux, trois autres œuvres. Cette exposition qui s'intitulait « Lettres ouvertes de la calligraphie au street art », une œuvre de Parashtu Farouar, une artiste iranienne qui vit aujourd'hui en Allemagne et qui s'intitule « Written Room ». Eh bien, évidemment, c'est évident, elle s'inspire de la calligraphie. On pourrait croire qu'ici, ce sont des mots. Calligraphie qui est vraiment l'expression de la religion musulmane depuis le 7e siècle, c'était vraiment un corollaire. Et effectivement, eh bien, ces formes, finalement, sont complètement vidées de leur contenu signifiant pour n'être plus que des dessins. Et c'est effectivement une œuvre assez forte. On la voit ici qui se déploie sur les murs, le plafond et le sol de l'Institut. Et donc, on est invité à fouler du pied aussi une expression qui, pour beaucoup de musulmans, est considérée évidemment comme sacrée, mais qui, là, est d'une certaine manière désacralisée. Njam Adawi, un artiste d'origine tunisienne, là aussi, avec des œuvres magnifiques qui viennent... parler du geste et de l'abstraction, encore une fois, de la calligraphie, qui est ici traitée vraiment dans sa dimension esthétique en particulier. Toujours de la même manière, une fresque de 350 mètres carrés qui orne nos murs extérieurs de l'Institut des cultures d'islam rue Léon, donc Tarek Benahoum. Et enfin, des œuvres beaucoup plus critiques, par exemple, puisque évidemment on ne s'interdit rien et c'est extrêmement important pour nous d'être à la fois dans une valorisation de ces cultures à travers des œuvres, comme je vous l'ai montré, qui prennent vraiment, qui embrassent tout cet héritage culturel, mais d'autres qui parfois viennent se positionner de façon assez frontale, mais en même temps décalée, voire humoristique et voire provocante, comme on peut le voir ici, avec cette œuvre d'un artiste indonésien qui s'appelle Adhya Ranadireksa, et qui proposait ici une œuvre qui s'intitule « Me and my wife »,« Me and my wives », donc au pluriel, donc « moi et mes femmes »,« moi et ma femme »,« moi et mes femmes », et qui témoigne, il se met en scène, et qui témoigne de l'évolution à travers les âges, de façon très provocante et évidemment caricaturale, de l'habit traditionnel javanais, qui, dans les années 90, incorpore des normes, des vêtements issus plus d'une mode qui viendrait des États-Unis et qui progressivement, du coup, introduit voilà, le voile, puis le niqab, voire la burqa, et qui interroge évidemment la question de la polygamie qui est mal vue en Indonésie, mais qui est tolérée. Et c'est évidemment une œuvre qui dénonce la montée de l'islam radical et des influences wahhabites donc dans ce pays qui compte le plus de musulmans au monde et auquel on avait consacré toute une exposition. Une autre œuvre du même artiste, alors là, il y va encore plus fort. Tintin est très, très, très populaire en Indonésie. Et donc, il le dévoie complètement, il le met en scène, là aussi, pour interroger la question de l'expansion de cette idéologie wahhabite voilà, au sein de cet archipel indonésien. Alors, c'est toute une série, je vous en ai mis une, mais enfin, c'est assez... voilà, ça parle tout seul. Pour finir, je vais vraiment être très rapide, la question des cultures d'islam dépasse évidemment la question des expositions. On le traite de diverses manières. Ici, une œuvre qui s'intitulait Khalid Dance, qu'on avait présentée dans le cadre de Nuit Blanche. C'était une production avec Smail Kanouté, toujours ici autour de la calligraphie, mais au sens large. On a de très nombreux spectacles. Ici, je vous ai mis une petite photo du débat de Mayotte, une expression féminine soufie des joutes musicales donc à Mayotte. Et puis, on a un cycle qui s'intitule « Les grandes figures des cultures d'islam » où on vient traiter, par exemple, de voilà, Averroès, Mansa Moussa, Omar Khayyam, voilà, la tradition bachique persane. Voilà, donc ça vous montre effectivement la diversité des approches qui sont les nôtres. Je termine sur un petit coup de pub, puisque en l'église Saint-Bernard, le 18 juin, très bientôt, donc on espère enfin pouvoir avoir cet événement qui s'intitule Sama Cinéma, qui met en scène la chorale Mourid d'Île-de-France avec le collectif Petite Planète, dans un événement totalement immersif voilà, à la croisée du concert et du vidging. Donc un très bel événement qui témoigne vraiment exactement de notre positionnement, à savoir toujours dans l'hybridité, dans l'ouverture, dans l'apaisement, dans la volonté d'aborder la complexité de ces cultures et leur richesse, toujours selon l'angle de l'art contemporain. Et pour conclure, je dirais que l'idée, en fait, évidemment, du coup, de la lutte contre le racisme anti-musulman, n'est pas, voilà, on n'a pas d'exposition qui s'intitulerait « Lutter contre le racisme anti-musulman », mais c'est vraiment l'objet, voilà, en filigrane, ça traverse complètement le projet de l'Institut des cultures d'islam. À partir du moment où on donne une visibilité à ces esthétiques et à ces cultures, on met à mal une vision enfermante et on valorise un patrimoine culturel multiple, et c'est bien là notre objet. Merci beaucoup.
Merci Bérénice. Oui, effectivement, en préparant cette communication avec Bérénice, on avait du mal à montrer des œuvres qui dénoncent le racisme anti-musulman. Peut-être, Bérénice, une prochaine exposition au sein de l'Institut, on a peut-être inspiré, j'espère, une suite, même si effectivement l'Institut n'est pas un institut de sciences sociales, au sens où l'art contemporain est au cœur de la programmation d'exposition, et c'est les artistes qui nous disent, qui nous racontent, qui nous montrent, qui questionnent le monde, et c'est ce que fait Faisal Hussein, qui lui donc est artiste plasticien et s'est saisi de cette problématique pour la travailler à travers ses installations et ses créations. Et je vais poursuivre la conversation en français. Et Faisal va bénéficier d'une traduction, donc Je vous prie d'être patient avec le temps de latence qui va s'installer du coup. Et est-ce que tu m'entends, Faisal?
Hello, yes, I can hear you. Can you hear me?
Oui, Faisal, merci. Alors, Faisal, tu as un petit quart d'heure pour représenter ton propos et nous reviendrons ensuite au temps du débat entre nos trois panélistes.
No problem at all. Thank you.
Ce n'est pas du tout un problème. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous faire cette présentation. Merci à Naïma, Bérénice et Karima. J'ai vraiment été très intéressée par vos présentations. Oui, je vais commencer. Donc, je m'appelle Faisal, je suis un artiste de Birmingham, au Royaume-Uni. J'ai terminé mes études il y a presque 20 ans, mais la majorité de mon travail récent, même pas récent d'ailleurs, de ces 8 dernières années, consiste à travailler dans l'espace public et à mobiliser l'attention dans l'espace public. Et comment ceci s'est passé? J'ai eu la possibilité de faire des recherches dans les collectivités de l'Est de Londres à Birmingham au sujet de la gentrification des quartiers et des évolutions du fait que des communautés étaient expulsées de ces quartiers. Je me définis en tant qu'artiste qui est musulman, mais pas en tant qu'artiste musulman. Donc, ma réaction à la haine anti-musulmane et anti-arabe et à l'islamophobie est venue de mon travail dans les quartiers de l'Est de Londres et autres. Et j'ai discuté avec les habitants qui m'ont dit que, effectivement, ils s'inquiétaient de la montée du racisme. Donc, je me demandais comment je devais réagir par rapport à ces dommages mentaux qui étaient exercés sur des gens comme moi à cause de l'image qu'on en donnait dans les médias. Et je me demandais si l'art ne pouvait pas fournir un espace permettant de déconstruire puis réamalgamer ce que signifie le racisme. Donc, c'est une matière comme la peinture, comme d'autres matières. Et donc, pour moi, quand on déconstruit ces éléments, on peut les réassembler de façon satirique, voire ridicule, pour saper, amenuiser l'œuvre d'origine ou le propos d'origine. Donc voici mon site web. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite en collaboration avec un projet à Birmingham qui s'attache sur des stratégies de prévention. Donc, cette installation concerne des organisations qui travaillent avec des juristes pour essayer de lutter contre l'image que l'on donne des musulmans, des jeunes enfants. Par exemple, les jeunes enfants peuvent parler appeler d'autres enfants des terroristes. Ils peuvent aussi, parfois, les enfants faire des dessins que l'on peut interpréter comme projets terroristes. Certaines lois, actuellement, projets de loi au Royaume-Uni, vont dans ce sens. Donc, cela fait peur. Je travaille également sur ce que j'appelle le Trueform Project, que vous pouvez voir là. Voici là l'exposition qui est ressorti des recherches que j'ai mentionnées, qui s'appelle, vous pouvez le visiter en ligne, c'est en français, Vous faites à votre guise, mais je vais juste couvrir, je vais juste vous présenter une ou deux œuvres. La première, qui fait partie de l'exposition, s'appelle « Le champion du projet ». Donc, je vais vous montrer la description en français, donc vous pourrez le lire. En 2008, des caméras vidéo ont été installées dans des zones où il y avait beaucoup de musulmans qui habitaient à Birmingham. Elles étaient cachées. Ces caméras avaient pour objectif de détecter des projets terroristes. Et ceci a amené diverses communautés, pas seulement musulmanes, à se poser des questions. Et donc, il a fallu ensuite les enlever. Et cela a coûté très cher, aux contribuables britanniques. Donc, nous les avons masqués. Et en fait, tout ceci permet d'exposer la paranoïa qui vise une communauté spécifique et qui cherche donc à déconstruire puis reconstruire en remettant ces caméras en scène autrement la question des caméras espionnes. Deuxième exemple, vous avez l'horloge. Ahmed Mohamed était l'horloge de Ahmed Mohamed, un écolier américain qui a été arrêté en 2015 parce qu'il avait démonté ce type d'horloge. Donc, il s'appelait Ahmed et l'enseignant a immédiatement appelé la police parce qu'il pensait que ce jeune était en train de fabriquer une bombe. Il a été arrêté, il a été emprisonné. Et il a fallu que le président Obama lui-même le secoue. Donc, ceci montre bien une réaction totalement paranoïaque d'un éducateur par rapport à des manifestations parfaitement normales chez des jeunes qui s'intéressaient simplement à démonter un objet. Troisième exemple, si je peux le trouver. Qu'on appelle le cheval de Gove, qui est en fait une réaction à ce qu'on appelait l'affaire du cheval de Troie. Désolée, ce n'est pas en anglais, en français, pardon. En 2014, dans une école de Birmingham, il y a eu une rumeur comme quoi un complot se préparait pour qu'une cinquième colonne s'empare de toutes les écoles de Birmingham. C'est un mouvement, la cinquième colonne, sur lequel il y a des rumeurs, comme quoi il y aurait une cinquième colonne dans toute l'Europe, tout comme le grand remplacement dont on parle aussi beaucoup, les théories du complot, etc. Et donc, presque 300 écoliers à Birmingham ont été privés d'enseignement parce qu'ils ont fait l'objet d'enquêtes parce qu'il y a eu toute une enquête menée pour savoir si ce complot se préparait bien. J'ai parlé avec… Non, je n'ai pas travaillé avec le professeur Homewood. J'ai fini par… appuyer le travail de John Homewood qui avait étudié l'histoire de l'enseignement, comment les enseignants avaient fini par croire à toutes ces choses. Il y a eu ensuite un procès qui a montré que finalement, c'est la politique publique du gouvernement qui avait engendré toutes ces craintes qui avaient mené à une diminution des libertés civiques. Et donc, beaucoup d'enfants n'ont pu accéder à l'enseignement pendant un certain temps. Donc, on a là un exemple parfait de jeunes d'enfants qui réussissaient bien dans un quartier ouvrier de Birmingham, mais Michael Gove, qui avait mené toute cette histoire. Et donc, on cherche à lui envoyer ce cheval de Gove, donc l'instigateur de ce projet funeste. Donc, pour, il y a également des œuvres assez simples. Aujourd'hui, je travaille avec sur des données, sur des informations concernant des collections et le projet que j'appelle le projet de du quartier de l'Est. J'appellerai ça prévenir. Nous cherchons à faire ressortir les carences des politiques actuelles. Donc, par exemple, je regarde les enseignes des magasins. Mon grand-père est arrivé en 1964 en Grande-Bretagne et beaucoup de migrants, comme vous le savez, ouvrent des magasins. Et ils connaissent les communautés dans lesquelles elles vivent, dans leurs magasins. Et donc, c'est un petit peu le genre de métier que mon père et mon grand-père ont occupé. Et donc, je pense que la façon dont les migrants se montrent au reste de la population est souvent par le biais de leurs magasins. Le lien avec mon travail passé, c'est fait. Je reviens donc à ce qui a déjà été dit. J'ai voulu occuper la place qui m'était due en Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre mondiale, lors de la reconstruction du pays. Et ma famille n'a pas voulu en être exclue. Ce projet que j'ai créé après le décès de mon grand-père, célébrait la vie et l'histoire de nos pères et de nos grands-pères en Grande-Bretagne, et ceci en présentant leurs portraits devant les magasins qu'ils géraient et qu'ils tenaient. Voilà le genre de travail. C'est pour que nous reprenions la place qui nous est due en Grande-Bretagne. Il y a également d'autres projets auxquels je participe, mais de façon générale, le projet Objet Suspect est un projet qui vise à obliger à réévaluer des préjugés, parce que l'art et la liberté d'expression va dans deux sens. Et c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement en France d'ailleurs. Donc en gros, voilà ce que je fais. J'aimerais bien poursuivre, mais je pense que ce serait mieux que vous regardiez ce que je fais, que vous preniez contact avec moi. Votre feedback sera très apprécié et je vous remercie.
Merci Faïsal pour cette présentation. Je vous invite effectivement à visiter le site de Faïsal qui a fait l'effort de nous le traduire. Et un certain nombre des œuvres exposées ainsi en ligne ne manqueront pas de vous faire réfléchir et vous arracher parfois un sourire, malgré, j'allais dire, la gravité du sujet qu'évoque Faïsal. Faïsal, en préparant cet échange de cet après-midi, nous avons évoqué les spécificités britanniques versus la France, par rapport aux musulmans qui habitaient en France, comme l'a rappelé tout à l'heure Karima. Je vais peut-être ouvrir un échange et un débat entre nos trois panélistes pour une petite dizaine de minutes. Je laisserai Mathias éventuellement, ou l'organisation en général, nous interrompre s'il y avait des questions spécifiques pour nos invités, sachant que je vois une première question qui nous parle de donner le site. Je crois que Mathias peut-être pourra donner les coordonnées.
Je le ferai. Et je rappelle que les questions, il serait bien que vous les écriviez soit à Mathias, soit à moi, et ensuite on les répercutera tout à l'heure. Quoi.
Merci. Alors, à mes trois panélistes, j'aimerais simplement vous entendre sur un aspect qui semble faire le lien dans vos différentes interventions, c'est la question des imaginaires. Donc, on voit que ce contexte et cette notion que nous a documenté sur le temps long Karima, qui va structurer un travail sur la question des mots-clés que sont les stéréotypes, les amalgames, et à contrario, le travail inverse de promouvoir et de les dépasser, ces amalgames et ces stéréotypes, avec un travail comme celui de l'Institut des cultures d'islam qui s'y emploie à travers son travail de programmation artistique et culturelle. On voit que ce n'est pas si simple, que l'histoire des représentations et plus largement des imaginaires est véhiculée dans notre quotidien, dans nos débats, dans nos échanges, dans les médias, dans l'espace public, dans nos rapports sociaux. On voit que ceux-ci sont structurés et héritiers de temps immémoriaux, si on remonte aux fameuses invasions barbares que nous avons apprises à l'école élémentaire, jusqu'aux débats les plus contemporains sur la place de l'islam en France, quand notamment celui-ci est dévoyé dans le cadre des attentats qui ensanglantent notre pays depuis plusieurs années. Dans ce spectre assez large, j'aimerais tout d'abord interroger Karima, sur, au-delà de la sémantique, tu n'as pas, et nous l'avions fait exprès, fait un sort à la question du terme islamophobie. Faisal, lui, en tant qu'anglo-saxon, l'utilise sans vouloir nous appesantir là-dessus. Sa question des imaginaires, comment aujourd'hui, dans le cas d'une exposition comme celle que tu prépares en collaboration avec le Musée de l'immigration, on peut la traiter en tant qu'historienne, bien sûr.
Oui, alors les imaginaires sont très têtus. Ils sont têtus, ils figent aussi en fait des représentations, même si la réalité renvoie tout à fait autre chose. C'est-à-dire, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas douter un seul instant des processus d'intégration des communautés musulmanes, entre guillemets, en tout cas toutes ces communautés issues de ces migrations coloniale, postcoloniale, profondément prolétaire. Que je prenne ma génération à moi d'une fin de cinquantaine et des générations de trentenaires issues de ces immigrations qui sont parfaitement bien présentes dans les universités, dans les hôpitaux, dans l'armée, dans l'éducation nationale, dans l'administration, etc. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et pourtant, cet imaginaire, peut-être qu'il a peut-être sans doute été en veille un petit moment, est réactivé de façon extrêmement puissante par des événements, qu'ils soient des événements politiques liés à des espaces géographiques qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui nous rattrapent d'une façon ou d'une autre, ou effectivement ces questions de terrorisme international qui ont touché la France. C'est en ce sens-là que c'est très intéressant, cette question d'imaginaire, pourquoi à un moment donné, on le voit par exemple aujourd'hui avec le rapport Stora. Le rapport Stora a bien montré sur cette tentative et ces propositions de réconciliation des mémoires de la guerre d'Algérie, comment au sein, et de l'autre côté en Algérie c'est pareil, hein, c'est-à-dire comment au sein de la société française, on a des mouvements d'opinion extrêmement réactionnels, je dirais régressifs idéologiquement, qui vont puiser dans cet imaginaire-là, donc toute une série d'éléments pour figer la représentation et surtout pour figer l'autre dans sa supposée dangerosité. Voilà. Et ça, dans nos temps très très contemporains, ça nous interroge. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu à ce point un savoir historique aussi sophistiqué, aussi développé. On a accès à des archives, on a accès à toute une série de choses où le savoir historique, il est réoxygéné. On sait un certain nombre de choses qui nous permettent de décrypter des temps qui sont des temps compliqués, notamment les temps coloniaux ou les temps d'immigration. Voilà, où je dirais que le savoir historique est incroyablement juste par rapport à ce qu'il a été auparavant. Et pourtant, donc qui renvoie à la réalité de notre présent, et pourtant ces imaginaires, avec ce que tu disais entre les stéréotypes et les amalgames ou les confusions, n'ont jamais été aussi puissants. Donc voilà, moi j'ai pas de réponse forcément à ça, bien sûr qu'il y en a quelques-unes, mais en tout cas c'est quelque chose qui revient comme un serpent de mer. Et dans notre exposition, nous, on s'est attaqué à quelque chose, moi, que j'ai trouvé assez redoutable. Je ne sais pas si on va y arriver. Parce qu'on attendra que l'exposition se finalise, après, on va avoir des retours de bâton, je ne sais pas. C'est prendre en main, justement, ce temps à la fois de la colonisation, ces histoires partagées, ces cultures judéo-musulmanes telles qu'elles ont existé dans leur imperfection aussi, je veux dire, dans leurs conflits, dans leurs violences, etc., de continuer à restituer cette histoire-là et de voir comment cette histoire, eh bien, quand elle sort des espaces originels, d'une certaine façon, et quand elle arrive en France avec le post-colonial, eh bien, donne quelque chose d'assez terrible aussi, parce que cette histoire partagée, elle n'existe plus. Je veux dire, on ne veut pas du tout s'en souvenir, et ce n'est pas celle-ci qu'on va mobiliser justement pour proposer des promotions ou des valorisations de quelque chose, pas du tout. C'est au contraire toute autre chose qui va être mobilisée.
Merci Karima. Par rapport à cet aspect-là, j'aimerais interroger Faisal sur justement la dimension très ancrée dans le réel de cette exposition sur les objets suspect qui va interroger artistiquement des faits divers où l'on va stigmatiser des populations parce que perçues comme musulmanes. Comment l'artiste se situe entre le réel et cet objet qui ici est un objet artistique qui vient interroger et dénoncer les amalgames et les discriminations que subissent les musulmans dans l'espace qui est le vôtre, cher Faisal?
Pour être sûr d'avoir compris la question, est-ce que vous me demandez ce que les visiteurs musulmans penseraient de ces objets? Je suis désolée, je n'ai pas très bien compris la question.
Je vous demande simplement, cher Faisal, comment partir du réel pour, en tant qu'artiste, questionner et dénoncer les discriminations qui visent les musulmans?
Il y a une expression en français, c'est pas joue à joue. En tout cas, en anglais, on dit que parfois il faut rire pour s'empêcher de pleurer. Et quand il s'agit du regard négatif que l'on peut lire dans les médias, il y a le fait qu'il faut arriver à trouver des incohérences. Donc, dans mes objets, il s'agit de distiller des incohérences au sein de certains cas précis. Donc, sans trop exagérer, voilà, ça serait ma réponse, en fait. Mais on pourrait dire aussi que ces objets sont simplifiés parce que je veux emmener mes parents avec moi. Je veux emmener ma communauté avec moi et je veux embarquer avec moi les individus qui ne connaissent rien à l'art. C'est ce qui est intéressant dans l'art, c'est que parfois, c'est quelque chose que d'autres médias ne peuvent pas faire. Donc, ça, voilà le processus. C'est très agréable à faire parce que psychologiquement, cela me permet de… Enfin, voilà. Bon, le racisme n'est pas une blague. Hein. Je ne veux pas en faire quelque chose de léger. Ce sont des questions où les gens meurent. Les gens sont… Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas pour ridiculiser la question du tout, du tout. Mais je cherche à présenter les choses de manière à faire un défi qui permettrait aux autres de se poser des questions aussi. Et je cherche, j'aimerais voir davantage de ce genre de réaction dans l'art.
Merci Faisal pour ce retour. Pour faire le lien justement sur l'action des publics, la capacité à toucher le plus grand nombre et notamment les principaux concernés, puisque ces populations, comme l'a raconté Karima, sont souvent des populations dont se perpétuent les discriminations, qui sont elles-mêmes dans une situation parfois de relégation qui les exclut de la visibilité. Et vous, tout à l'heure, Faisal, vous disiez rendre prendre sa juste place et rendre visible une histoire et un patrimoine. Sur cet aspect-là, chère Bérénice, pour te donner la parole, comment l'Institut et toi en tant que directrice artistique, vous traitez de cette question des publics, notamment des publics du quartier, parce qu'il n'échappe à personne que vous êtes dans un des quartiers où la communauté dite musulmane est peut-être la plus dense ou la plus présente. Comment, quel est le rapport que vous entretenez en termes de, voilà, de dialogue, de mise en récit de vos expositions avec les publics de proximité, notamment de culture musulmane?
Donc, il y a effectivement, ça, la question des publics se joue à de multiples niveaux. Peut-être juste une toute petite nuance, c'est que évidemment, nous ne sommes pas autorisés à faire des statistiques pour savoir combien de personnes d'obédience musulmane visitent nos expositions, ni assistent à nos événements. C'est bien d'ailleurs, je crois, ce qui fait la différence aussi avec d'autres pays comme le Royaume-Uni, puisque effectivement, il y a cette question de la laïcité qui est inhérente à celle de la République française, qui prévaut systématiquement. Ceci étant dit, la question, je pense, voilà, comme je le disais, se joue à de multiples niveaux. Tout d'abord, le choix des thématiques d'exposition, qui est évidemment central. Quand on décide de faire une exposition qui s'intitule « Lettres ouvertes de la calligraphie au street art », on se pose évidemment la question de comment nouer ce dialogue avec une expression qui, comme je le disais tout à l'heure, est complètement pétrie de culture d'islam, et en même temps, comment déplacer la focale, comment déplacer le regard pour introduire une nouvelle approche qui soit contemporaine et qui, du coup, soit parle à un public extrêmement large. Et on avait vu avec cette exposition, par exemple, qu'on avait aussi bien des personnes du public qui venaient par une approche beaucoup plus street art, d'autres qui venaient parce qu'il y avait une familiarité avec cette question de la calligraphie, d'autres qui venaient par l'angle de l'art contemporain, d'autres qui venaient par l'angle de l'écriture en règle générale. Et donc, c'était effectivement une approche extrêmement diverse et qui générait un public divers. Je crois que vraiment en termes de public à l'Institut, c'est une mixité qui est assez extraordinaire. Si je veux un peu schématiser, je dirais qu'il y a un tiers de public qui vient du 18e arrondissement, avec la disparité que recouvre le 18e arrondissement, puisqu'on va parler aussi bien de la Butte Montmartre que de la Goutte d'Or, donc c'est évidemment pas du tout les mêmes problématiques. Il y a effectivement un autre grand tiers qui vient Paris, Grand Paris, et puis le tiers restant qui vient de régions et 5% de personnes qui viennent de l'international, donc qui sont inclus aussi dans ce dernier tiers. Donc on est vraiment sur un éventail très large, et au-delà de la question du choix des thématiques d'exposition, il y a aussi la question du choix des œuvres, tout simplement. C'est vrai qu'on se pose toujours la question de savoir, enfin moi en tout cas en tant que directrice artistique et commissaire d'exposition, puisque j'assure le commissariat d'exposition à l'Institut, c'est toujours une question que celle de la réception des œuvres par les publics qui viennent nous rendre visite. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas à la Goutte d'Or comme on travaillerait dans un autre arrondissement de Paris, et qu'on ne fait pas des expositions non plus comme on le ferait dans un centre d'art plus classique. Et en même temps, on est un centre d'art et on a aussi cette vocation à toucher toutes sortes de publics, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient avertis ou non, et en particulier aussi les publics scolaires. Donc on a fait aussi un très gros travail de normalisation de l'Institut dans les imaginaires collectifs, puisque effectivement, il faut bien se dire que quand on contactait les chefs d'établissement en disant « Venez visiter avec vos élèves les expositions de l'Institut des cultures d'islam », ça nécessitait aussi un petit peu de pédagogie en amont pour expliquer ce qu'on y fait, comment on le fait et comment, bien évidemment, le principe de laïcité est absolument respecté chez nous. Donc, il y a ça. Et puis, une dernière chose aussi qui est évidemment la question du développement d'actions en lien avec les publics et du coup les acteurs locaux du quartier, c'est quelque chose qui est extrêmement, enfin c'est essentiel pour nous. On travaille vraiment sur de nombreux projets. On a avec différentes associations, le café social donc Ayem Zayemen qui est à la Goutte d'Or, voilà le café parents enfants Home Sweet Home, j'en passe, hein, y en a énormément, avec qui on a des projets au long cours depuis de nombreuses années. Ce sont des projets qui n'ont pas forcément pignon sur rue, mais qui sont absolument essentiels pour nous parce qu'ils assurent cet ancrage local voilà, le fait de ne pas être déconnecté de là où on est implanté. Et enfin, évidemment, la question de la médiation, de la lisibilité de nos expositions et de nos actions. Chaque mot qui est écrit sur un cartel est pesé, tout est vraiment toujours extrêmement travaillé, et on a cet objectif d'être à la fois dans l'accessibilité des propos qui sont tenus sans évidemment céder à une simplification de ce qu'on dit. Donc, il y a effectivement voilà, un travail sur les parcours d'exposition, sur tous les textes, les cartels, etc., qui est très, très important pour nous et auquel on tient beaucoup.
Merci Bérénice. Je donnerai simplement un mot de conclusion pour ce panel en remerciant nos trois intervenants et intervenantes. En rappelant ici effectivement que nous sommes à une ère balbutiante de la mise en espace, en tout cas de l'exposition de la thématique, c'est-à-dire du racisme anti-musulman, qui lui-même, déjà dans sa dénomination, continue à faire débat, à être, j'allais dire, dans un contexte socio-historique complexe qui emprunte à l'histoire de l'immigration, mais surtout au fait colonial pour les temps contemporains, comme l'a rappelé Karima, qui fait œuvre, en tout cas en creux, d'un travail d'exposer la richesse des cultures d'islam et donc de ceux qui sont censés être musulmans. Et c'est ce que fait l'Institut des cultures d'islam et à son niveau au sein du Musée national d'histoire de l'immigration sur la question migratoire, le musée. Et enfin, des artistes de la génération de Faisal, et nous serons heureux, Faisal, j'espère, pourquoi pas vous voir un jour à l'Institut ou au musée, qui, à l'international aussi, mettent en récit cette question de la discrimination et du racisme qui peuvent toucher les populations dites musulmanes. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
C'est pas terminé. Ah, ça n'est pas terminé, si vous permettez.
Je vous cède la parole.
Oui, parce que on a encore des questions à vous poser. En tout cas, moi, j'ai une question, si vous permettez, parce que on a demandé au public, mais bon, aucune question n'est venue du public. Par contre, moi, j'ai une question à poser, et donc c'est aussi ça le débat. Alors, notamment, je voudrais la poser à la fois à Bérénice et à Faisal, parce que j'ai trouvé absolument extrêmement intéressant leurs deux interventions et les deux propositions qui sont assez différentes. C'est-à-dire que d'un côté, une approche, avec l'Institut des cultures d'islam, une approche dynamique, multiple, éventuellement critique, mais disons positive. Et de l'autre côté, c'est aussi positif, mais Faisal est dans une approche beaucoup plus provocatrice disons qui est beaucoup plus critique. Ma question en fait est la suivante, c'est est-ce que vous avez dans vos expositions, est-ce que vous avez eu des problèmes? Parce qu'on est dans un contexte de montée de la haine contre les musulmans, en particulier en France, mais visiblement en Angleterre, c'est le cas aussi. Donc, ma question est celle-là. Par exemple, Bérénice disait qu'il y a une salle de prière qui n'est pas gérée par elle, mais qui est intégrée à cet institut. Est-ce qu'il y a eu des critiques, est-ce que vous avez subi des attaques par rapport à ça, est-ce que vous avez reçu des critiques par rapport à vos expositions, et de la même manière, Faisal, est-ce que dans votre façon de dénoncer, que je trouve vraiment très intéressante, Est-ce que vous avez eu des attaques de la part de politiques, par exemple, dans votre dénonciation de la surveillance, par exemple, à travers les caméras, enfin, le repérage, y compris chez des jeunes enfants aussi, le supposé repérage de terroristes? Voilà ma question.
Merci beaucoup, Régis. Écoutez, l'Institut a été évidemment, à ses départs, à l'origine, assez chahuté. Ça a généré de nombreux débats, mais qui ont finalement permis, je dirais, d'affirmer une ligne artistique tout à fait claire et qui aujourd'hui et qui a permis à l'Institut de trouver sa place dans le paysage artistique et culturel parisien. Et cette place, elle se mesure évidemment à l'aune de la fréquentation qui a augmenté de plus de 50% sur, bon, alors, je ne compte pas l'année qui vient de s'écouler, hein, mais sur voilà, les 5 dernières années. Et également, elle se mesure à travers tous les partenariats qu'on a pu nouer. Et on en a, enfin, ils sont innombrables parce qu'on a travaillé avec des structures, voilà, aussi bien de la scène parisienne que nationale que internationale. Ça, c'est un premier point. Après, sur les problèmes qu'on aurait pu rencontrer, alors évidemment, ça fait bien longtemps que ça n'a pas été le cas, mais on a pu recevoir des courriers malveillants qui provenaient d'extrêmes, voilà, de bords extrêmes, je dirais, aussi bien voilà, de personnes qui se réclament d'un islam radical que de personnes qui, politiquement, se situent au niveau de l'extrême droite. Donc, effectivement, voilà, disons que, voilà, pour le peut-être en rire un petit peu, je dirais qu'à partir du moment où on reçoit des lettres qui viennent de ces deux extrêmes, on se dit que peut-être on est pile au milieu et que finalement on est exactement là où on doit être. Mais voilà, ça c'est une première chose. On a pu avoir des reportages à charge, je ne vais pas ici m'attarder là-dessus, mais où tout était fait pour démontrer qu'on n'était pas une association culturelle, mais cultuelle, en venant un jour où l'Institut était fermé et en braquant des caméras sur des fidèles qui venaient prier sans les prévenir. Donc évidemment, c'était évidemment pas l'image qu'on aurait souhaité donner de l'Institut. Quand on vient visiter une institution qui est fermée, évidemment, on tombe sur une porte close. Hein. Donc voilà, c'est voilà, ce genre de choses qui a pu nous arriver. Mais je dirais que ça fait vraiment plusieurs années que tout va bien et que je pense sincèrement que l'Institut a trouvé sa place dans le paysage institutionnel et qu'on a même des retours, hein, qui nous viennent du Royaume-Uni où voilà, des personnes ont pu dire voilà, quand on entend parler de l'Institut des cultures d'islam et qu'on ne connaît pas, on peut s'interroger, mais quand on se penche sur la programmation et qu'on voit effectivement la diversité et parfois, je dirais même aussi l'audace, hein, des propositions artistiques qui sont diffusées, bon, eh bien, du coup, ça règle le débat.
Merci. Faisal, peut-être.
Oui, j'aimerais bien rajouter plusieurs choses, en fait. La première chose, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, qui fait partie de l'exposition, c'est un travail qui s'appelle Text Troll. Il s'agit d'un message que j'ai reçu de la part d'un raciste qui ne regardait pas seulement les musulmans, mais regardez des juifs, des noirs, des français, des allemands, tous ceux qui n'étaient pas anglais. Ça s'est passé après le Brexit. Il parlait des francs-maçons et puis des rêves d'extrême droite et que j'ai reçu à 1h du matin. Donc, j'expose ce racisme dans le travail. Et comme pour revenir à ce que disait Bérénice, je pense que c'est bien quand les deux côtés vous attaquent, en fait. Ça montre que l'art fait quelque chose, parce que si ça agite autour de vous, c'est bon, évidemment, il faut faire attention, mais si les gens répondent d'un point de vue raciste ou extrémiste, eh bien, je pense que l'artiste est sur le bon chemin. Et malheureusement, oui, je dois dire que je suis devenue récemment un sujet d'intérêt pour quelqu'un qui parle beaucoup de haine et qui est obsédé par mon exposition et des expositions à Londres et qui parle des projets, le mal des projets de gauche et qui parle de l'affront de l'humanité. Bon, donc, oui, effectivement, il y a des artistes, mais comme j'ai dit au début, je suis artiste et je suis également parallèlement musulman. Et c'est quelque chose que, voilà, que j'assume, mais la diversité et la réponse que l'on peut donner à ces questions, c'est vraiment, vraiment le propos. Et au fur et à mesure de la complication croissante, je pense que les institutions et les artistes doivent ouvrir de manière à permettre à un plus grand public de regarder et qui pourrait comprendre que c'est aussi important qu'une sculpture en bois complètement terminée, par exemple.
Merci. Alors, je me tourne vers Mathias parce qu'il y a encore en fait une autre question qui m'est arrivée et que je trouve intéressante, mais on n'a pas le temps là aussi.
Sauf si on répond en une minute, mais pour ne pas prendre trop de temps. Mais,
ça serait adressé à Karima, je pense, hein. Enfin, c'est moi qui interprète en ce sens. C'est sur la question, mais alors si vous pouviez éventuellement, Karima, répondre très rapidement, même si c'est une vaste question, mais comment articuler lutte contre l'antisémitisme, lutte contre l'islamophobie, et comment, alors peut-être comment avez-vous fait au sein de l'exposition que vous avez co... Ben, c'est Mathias qui peut répondre aussi, éventuellement.
Je ne sais pas si on a pu faire quelque chose, en fait. Moi, la question, je la trouve intéressante parce que, en fait, on pense qu'entre groupes qui ont eu à subir ou qui subissent des discriminations, des violences, des inégalités, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir de la proximité, de la solidarité. Je crois qu'on est... le monde est beaucoup plus compliqué que ça. Il fut un temps où les identités étaient bien simples, évidentes, naturelles, elles ne le sont plus du tout. Et que malheureusement, on a de l'anti-musulman chez les juifs comme on a de l'anti-juif chez les musulmans et qu'en fait on a des identités des identités religieuses qui se sont polarisées sur du politique extrêmement puissant et du politique extrêmement puissant, extrêmement aussi extrêmement alimenté par des systèmes et des États qui font que moi, je suis assez désenchantée parce que je trouve qu'on a beaucoup de mal à trouver ces fameux outils qui permettent de traiter en même temps les choses. Voilà, chacun tire sa couverture vers l'autre et puis on est quand même dans une culture victimaire et doloriste qui est très forte. Et la situation, elle est extrêmement, extrêmement complexe. Moi, je n'ai pas de questions par rapport à ça. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça.
Aucune. Peut-être pour compléter, du coup, pour après embrayer sur la table ronde suivante. Donc, effectivement, alors, l'exposition, elle est à venir, puisqu'elle aura lieu dans un an. Donc, le travail n'est pas encore achevé là. Mais il me semble que ça rejoint ce qu'a dit Karima Diresh en début de cette table ronde, c'est-à-dire essayer de lutter contre l'image d'identité figée, surtout, et essayer de rappeler la construction historique de ces identités. Et je dirais c'est aussi pour essayer de lutter contre à la fois les images négatives de l'autre de façon réciproque, rappeler aussi les liens qui sont des liens à la fois culturels, qui sont des liens aussi liés à des histoires de migration, même si elles ne sont pas dans le même cadre, mais avec des images. Karima a évoqué, et Naïma d'ailleurs aussi, l'emprise des imaginaires c'est très intéressant de voir comment on a des fois chez les mêmes personnes des imaginaires contradictoires qui cohabitent, celui de l'appartenance, de l'ancrage à la France et aussi à notre territoire, qui peut être un territoire réel, fantasmé, etc. Et comment finalement, ce n'est pas seulement des contradictions, mais ça dit aussi quelque chose de l'histoire de la France, qui dépasse même le cadre de ces deux dites communautés juives et musulmanes, hein, pour voir comment finalement ces histoires nous traversent et on peut dire, la mémoire nous joue des tours, voilà, pour nous dire ça aussi. Donc on est évidemment dans une exposition qui va être une exposition d'histoire, donc on va rappeler ces constructions historiques, mais aussi qui va laisser place à des mémoires qui ne sont pas toutes apaisées loin de là. Mais c'est aussi intéressant de le voir. Ça verra peut-être à ce qu'avait dit Verlie von den Dellen, qui sera peut-être une des points de conclusion, on verra un peu plus tard, mais sur la question du musée agonistique, ou en tout cas de l'exposition qui met en scène du débat ou du combat. Voilà. Bon, en tout cas, on n'y est pas encore. Donc, on vous donne rendez-vous dans un an pour l'exposition.